se fait par tshuva, le vidouille. Expiation des lois négatives se fait par deux choses. Tshuva Yom Kippour. La tshuva Tola, on a vu ça ou pas? On va lire dedans. Avar al mitzvah klota ase. Il a transgressé une loi négative. Shen bakaret, qui n'est pas sanctionné par le karet. Après, on va voir qu'il y a des lois négatives ou positives qui sont sanctionnées par le karet. C'est autre chose. Là, on parle maintenant des lois qui sont négatives. Ne pas manger du pas de porc. Ne pas, ne pas regarder de femme, ne pas mentir, toutes ces choses-là qui sont négatives. Avar a mitzvat lo ta'aseh. Il a transgressé une loi qui est négative, shen bakaret, qui n'est pas sanctionnée par le karet. Velo mitat bedin, et qui n'est pas sanctionnée non plus par la mort du bedin, va sa tshuva. Il a fait tshuva. Tshuva tola. La tshuva suspend. Yom Kippourim mechaper et Yom Kippour expie. Au Belounema, à propos de cela, il est dit que Yom Azeh chaper alechem, car ce jour-là, Dieu expiera vos fautes. On voit que la tshuva n'est pas suffisante, elle fait que suspendre, et il faut encore que Yom Kippour vienne pour complètement effacer le péché. Que signifie suspend? Deux explications des Mefarshim, des commentateurs du Rambam. Enfin, en fait, le Rambam n'invente rien, c'est une Gemara dans Maseret Yoma. Suspend. Il y en a qui disent c'est la moitié. La moitié de la facture, elle part lorsque tu fais tshuva. L'autre moitié, elle part le jour de Yom Kippour. D'autres disent non. Suspens, ça veut dire autre chose. Ils disent comme ça. Ils disent, c'est comme si quelqu'un, il a volé, on a donné cet exemple dernièrement ici, il a volé à l'épicerie. Pendant des mois, pendant des années, chaque jour, il allait, il prenait un paquet de cigarettes et il se mettait dans la poche. Ok. Un beau jour, il fait tshuva. Il se rend compte la facture qu'il a fait faire à l'épicier, des milliers d'euros de cigarettes qu'il lui a piqué comme ça tous les jours. Il fait une tshuva complète et en larmes, il dit à l'épicier, excusez-moi, j'étais un rachat, je vous ai volé, je regrette infiniment, pardonnez-moi, je ne referai plus, je vous promets, je regrette, je ne dors pas la nuit, etc. L'épicier, il est miséricordieux, il est rahman, on dit c'est bon, allez, c'est bon, je t'excuse. Ok, au revoir. Quoi au revoir? Ok, je t'excuse, mais tu me dois l'argent. Ça veut dire que quelqu'un maintenant, il fait tshuva. Il a fait des averot, des péchés négatifs envers Dieu. Il fait tshuva. Alors, avant de faire tshuva, il a un statut de rachat. Il a un statut de méchant, de mécréant. Il fait des averot, et celui-là égal, il continue, et il n'a aucun sentiment de regret. Là, il vient vers Dieu, il dit, pardon, je regrette ce que j'ai fait, je promets, c'est terminé, j'arrête. Alors son statut va passer de rachat à statut de tzaddik. Dans le ciel maintenant c'est un tzaddik. Mais la facture, elle est encore là. C'est vrai. Si quelqu'un il continue à faire maintenant d'averot, c'est un rachat. Maintenant il dit moi j'arrête, c'est terminé, je regrette ce que j'ai fait, c'est terminé. Ok, alors c'est plus le même type que tu étais. T'as changé, t'étais un rachat, maintenant t'es un tzaddik. Dans le ciel, il est considéré comme un tzaddik. Mais la facture, elle est encore là. Lorsque tu as transgressé des averot, tu as détruit des mondes, tu as détruit des parties de ton âme qui sont parties dans le côté négatif. Il y a ici une destruction spirituelle qu'il faut reconstruire. Ça, la tshuva ne peut pas reconstruire. Il faut que vienne Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, c'est la bina, c'est la sphère la plus haute qu'on puisse, une des plus hautes qu'on puisse atteindre, qui descend et qui nettoie tout, qui amène un flux de lumière qui va et qui ramène toutes les parties de notre âme qui sont parties dans les parties négatives, d'accord. Quand on fait un péché, on donne de la force aux forces négatives. Cette partie d'âme qu'on donne, elle revient, tachouv, hey, revient le hey. Le hey qui est une partie de notre âme, il est parti maintenant, c'est une partie négative, et il revient vers nous. Oui.
Je veux savoir, Rosh Hashanah, ce qui parle aussi, on est pardonné toutes sortes de grands pardons aussi, mais en quoi ça consiste, c'est quoi la différence avec Yom Kippour?
C'est un jour de tshuva. C'est un jour de tshuva, mais il n'est pas du tout dans la même optique que Yom Kippour. Yom Kippour, Dieu pardonne. Rosh Hashanah, Dieu ne pardonne pas. Rosh Hashanah, Dieu, il te juge. Donc si tu es en état de regret, si tu es en état de... Tu reçois sur toi la royauté. Rosh Hashanah, c'est un jour où la royauté de Dieu se dévoile. Il vient en tant qu'une fois par année, ce jour de la création de l'homme, il vient maintenant et il fait le bilan de l'humanité. Où tu en es? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Je vais regarder maintenant. Et toi, tu viens et tu dis, écoute, moi, je vais très bien. Et si il voit que tu viens comme ça, c'est marqué que Chazal dit, « Kol Shana Sherasha Betrilata, Ashira Besofa. Chaque année qui est pauvre au début, elle est riche à sa fin. Chazal dit, c'est quoi qu'elle est pauvre? Que Bnei Israël se font pauvres. Comme il est marqué, Tahanun Gaber Rash. Quelqu'un qui est pauvre, il parle en Tahanun. Quelqu'un qui va demander de l'argent, il ne fait pas toc, 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 donnez-moi de l'argent. Toc, toc, excusez-moi de vous déranger, j'ai des problèmes, ça ne vous dérange pas un peu, j'ai besoin d'un peu d'au monde, d'accord? Il vient, il parle avec Achna, avec subordination à Dieu, avec, il regrette, en état de, il reconnaît la supériorité de Dieu, la royauté de Dieu, et il vient en tant que petit serviteur qui n'a pas fait le bien comme il faut. Ça, c'est l'optique de Rosh Hashanah. Mais ce n'est pas le moment maintenant, quand Dieu vient en train de regarder le bilan, de commencer à dire « j'ai fait ça », on ne fait pas de vidouille. Il est interdit de rappeler des péchés pendant Rosh Hashanah. C'est un jour de dîme, c'est un jour de jugement. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est se faire petit. Et reconnaître comment c'est petit, en reconnaîtrant la grandeur de Dieu. Rach, tu te fais comme un pauvre petit, quand tu es petit, alors à la fin de l'année, Dieu te signe que tu auras une année qui sera grande devant ta chaîne. Pardon ? J'entends pas.
Les mérites, on les invoque. On fait que
tout. Non.
On n'invoque pas le mérite de faire tout ça, d'Abraham.
Non, ce que nous faisons, la seule chose que nous faisons en Rosh Hashanah, en gros, on parle de la grandeur de Dieu. On veut que Dieu se dévoile. C'est la lumière messianique qui se dévoile. Nous reconnaissons que Dieu est le Créateur, que c'est lui qui aura la fin, et nous attendons que Dieu puisse se dévoiler dans le monde, qui n'est pas l'époque messianique, que tout le monde reconnaisse. Et tu es un Dieu, tu es Kadosh, il n'y a pas plus saint que toi, plus grand, etc. Et tu, c'est vrai qu'on demande que Dieu passe de son trône de justice sur son trône de miséricorde. Mais il est sur son trône. Ce n'est pas au moment de rappeler maintenant les péchés. En passant un peu dans la prière, on demande qu'on ait une bonne année, etc. Mais c'est très très peu. Le Zohar, il dit que ceux qui demandent à Rosh Hashanah, have, signifie en araméen, donne. Have, donne-moi de la vie. Have, donne-moi de la parnassa. Have, donne-moi de la briout. Sont comme des chiens qui crient have, qui aboient. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le moment de demander quand le roi vient. Tout à fait, on imagine maintenant le roi vient. Tu as sa garde royale qui a ta l'armée, tu as tout le coup, le roi il apparaît. Quand tu dis, j'ai besoin maintenant de finir mon, excusez-moi, l'amour, j'ai pas reçu à payer l'arnona. Dégage ! Maintenant crie, vive le roi, c'est tout. Montre que le roi est le roi. Yom Kippour, c'est autre chose. Dieu, c'est le Midrash, il dit, sortez vos ordures de la maison. Et moi je viens et je nettoie tout. Il faut sortir, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça c'est un autre jour. Ça, c'est un jour. Le jour de Pshua par excellence, c'est Yom Kippour, c'est pas Rosh Hashanah. Mais évidemment, lorsque tu viens à Rosh Hashanah dans une optique de reconnaître la grandeur du roi, c'est certain que tu es dans la bonne direction. Dans cette mesure-là, c'est vrai que le Midrash dit que Dieu, ce jour-là, il va pardonner un tiers. Il y a un tiers qui est, si je me souviens bien, c'est Rosh Hashanah, un autre tiers qui est à Aseret Metshuva, 10 jours de pénitence, et le dernier tiers à Yom Kippour. Alors on dit pourquoi est-ce que Yom Kippour, c'est le grand jour de Tshuva. Il faudrait qu'il y ait Rosh Hashanah et les 10 jours de pénitence et Yom Kippour. Parce que enlever le premier tiers, c'est facile. Deuxième tiers, c'est encore facile. Mais le dernier, qui soit bien propre comme il faut, ça, c'est. Là, il y a tout l'effort de Tshuva grand. Pour être bien comme il faut, propre, c'est comme un habit, d'accord? Un habit qui est sale, alors la boue t'enlève rapidement. Mais après, les taches qui tiennent bien, ça, il faut laver bien. Le dernier tiers est le plus difficile, c'est Yom Kippour. C'est une très bonne question, on en parlera très bientôt. On avance. Donc si quelqu'un maintenant, il a transgressé une loi négative, là, Tshuva suspend, deux explications, enlève la moitié, ou deuxième explication, enlève rien du tout, mais change le statut de rachat à tzadik, de mécréant à juste, et il lui reste encore la facture. Ça, c'est Yom Kippour, la facture va être annihilée. Je suis fin de deuxième ligne. Avar al-Kritot ou Metot Bedin Vasachuva. Il a transgressé des interdits qui sont sanctionnés par le Karet ou par la mort du Bedin. Aujourd'hui, mort du Bedin, c'est possible que s'il y a eu deux témoins qui l'ont averti. Attention, si tu fais cela, tu transgresses maintenant un interdit qui est puni par la mort intel. Ce n'est pas actuel. Donc on va dire, en gros, aujourd'hui, les péchés les plus graves sont sanctionnés par le karet. Qu'est-ce que c'est que karet? Retranchement. Tu es retranché ta relation avec Dieu. il y a des sortes de fils, de tuyaux par lesquels Dieu amène un flux à la personne, un flux de vie, un flux de perception de Dieu, un flux de sentiment de Dieu, un flux d'amour de Dieu. Tout cela est coupé. Quand on transgresse un carré, on devient un peu comme un animal. L'animal, il est bien, il est sans Dieu. C'est pas que Dieu existe, et alors il bouffe, il se reproduit, et voilà, à peu près ça, d'accord ? Vivre comme un animal, c'est la pire. Le Rambam dit, il n'y a pas de vengeance pire que celle-là. Que tout ton statut d'homme à l'image de Dieu, il part. Tu deviens comme un animal, d'accord ? Hélas, beaucoup de gens vivent comme cela. Il faut savoir qu'on transgresse un carré, que si on sait qu'en transgressant ce péché-là, on transgresse un carré. Par exemple, quels sont les interdits de carré les plus courants ? Chilul Shabbat, relation sexuelle interdite, manger ou boire à Kippour, manger du pain, du Hametz à Pessah, il y a certaines graisses animales, le Chelev, principalement la partie inférieure de la bête, qui sont interdites, manger du sang de la bête, et pas n'importe quel sang, le sang qui sort lorsqu'on égorge, il y a un petit jet, après il y a un grand jet discontinu, ce jet-là, l'âme sort dans ce jet, c'est carette si on boit de ce sang-là.
Quel
deuxième? Le deuxième. Le premier, au début c'est tac tac tac, après psh. Alors tac tac tac, c'est pas carette. Carette, c'est un lave de roi, il a quand même interdit de la Torah, mais carette, c'est celui du jet dans lequel l'âme sort. Monter sur le passage de l'esplanade du temple, nous sommes tous impurs aujourd'hui. Montrer sur l'endroit où il y a aujourd'hui la mosquée d'Omar, c'est ils sont carrettes. À peu près tout. Il y a encore d'autres lois de carrettes, mais elles ne sont pas actuelles, c'est l'époque des sacrifices, d'accord ?
Manger, boire un petit tour.
Oui.
Comment s'imaginer, je crois qu'il y a une règle qui dit, donc quoi, si jamais on est malade, ou quoi que ce soit, on a le droit.
Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
On sait qu'on transgresse carrettes aussi.
Non. Ceux qui doivent manger et boire, d'abord. Si vraiment il y a un danger de vie, s'ils ne mangent pas beaucoup maintenant d'un coup, on le donne à manger. Parce que la vie repousse tout, à part les trois interdits graves, adultère, relation sexuelle, interdite, assassinat et idolâtrie.
C'est mieux que d'avoir des relations
interdites. Oui. Par contre, si quelqu'un maintenant, Yom Kippour, il doit manger, alors qu'est-ce qu'on lui fait ? On lui fait boire et manger très peu à la fois. Parce que l'interdit de carrette, c'est une quantité de manger. Manger, c'est quoi ? Il faut manger kakotevet. Kakotevet, c'est comme environ 22 grammes, 22 millilitres, en 4 minutes. Si quelqu'un a mangé 22 millilitres de nourriture, c'est un volume, c'est un peu moins qu'une boîte d'allumettes standard, en 4 minutes, alors il transgresse carrette. Et d'aime boire. Pour boire, il faut qu'on boit 86 millilitres, 86 millilitres, c'est à peu près comme ça dans un verre, d'un coup en 4 minutes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a qui disent que c'est même en 6 minutes, même en 7, même en 9 minutes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ne prend aucun risque. On lui fait manger moins, on lui fait en 10 millilitres, toutes les 10 minutes. Comme ça, bien dit, il transgresse, d'abord c'est une machloket, s'il transgresse un interdit d'Oraïta ou des Rabbanan, machloket dans Masechet Yoma, dans Rav Ashi et Ravina. L'alachek, c'est comme interdit d'Oraïta, chatsi shiur asur min haTorah, moins d'une quantité, c'est un interdit de la Torah, mais il n'y a pas un chiyuv, il n'y a pas une culpabilisation de carrette ou d'abréger un sacrifice ou de mort. Il n'y a pas une quantité nécessaire. Donc on leur fait faire interdit, mais beaucoup moins, dans la mesure où il n'y a pas la quantité nécessaire. De même, quelqu'un qui mange du chametz à Pessah, il faut qu'il mange une quantité de manger. Manger, c'est kazait à Pessah. Manger, kazait, c'est 28 millilitres. Shabbat, il faut transgresser aussi une quantité. Ça dépend de quel interdit. Mais des interdits, il y a une certaine quantité. Quelqu'un mangeant qui va cuire Shabbat, la nourriture, il faut qu'il cuit kazait, kagorgeret, c'est juste, kagorgeret, comme une figue, une grosse figue, d'accord ? Alors, s'il a cuit moins maintenant, c'est interdit de cuire. Il a pris un steak, maintenant un petit morceau de steak, il a fait des brochettes. C'est interdit de la Torah, c'est certain. Mais il n'y a pas de chiyuv. Du temps du temple, on ne va pas le lapider, ni c'était de façon shogeg, de façon involontaire, il n'a pas amené un sacrifice. Parce que c'est chatsi shiur, en fait, c'est là, une demi, c'est pas forcément une demi. C'est pas une quantité complète d'obligation de culpabilisation. D'accord ? Donc, pour chaque avéra, tu as d'habitude la quantité interdite, nécessaire, qui te rend chayav. Si tu n'as pas transgressé la quantité nécessaire, il n'y a pas de karet. Même si quelqu'un a transgressé la quantité nécessaire, si ce n'est pas que c'est un karet, la halakha est qu'il n'y a pas de karet. Donc, il ne faut pas savoir que c'est un karet. Maintenant, vous le savez, parce que c'est normal, il faut étudier la Torah. D'accord ? Il faut savoir, donc vous ferez attention de ne pas transgresser ces choses-là. Alors, si quelqu'un maintenant transgressait un Issour Karet, il y a deux interdits positifs. Tous les interdits Karet sont négatifs, à part deux. Il y a deux interdits qui sont Karet positifs, des lois positives, mitzvot assez, qui sont la Brit Mila. Quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, il est en état de Karet. Attention, il arrive que les gens leur fassent une Brit Mila, mais elle n'est pas valable parce que le Moël n'a pas su bien faire la Brit Mila. Qu'est-ce qui se passe? Les nouveaux Moalim inexpérimentés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une membrane qui recouvre le membre masculin, que on doit, le Moël tire, il met une protection pour ne pas couper trop, parce que s'il coupe trop, ça coupe le membre lui-même, et avec un couteau, il coupe la membrane. Quand ils sont inexpérimentés, ils ont peur de tirer trop, parce que si on tire trop la peau, alors le membre, il vient avec. Et si tu coupes le membre, en bon français, ça la fout mal, d'accord? C'est pas agréable du tout. Il y a des accidents, d'ailleurs, il y a eu un film dernièrement, réunion de beaucoup de Moalim, ils montraient des diapositives de Mila ratée, c'est terrible, d'accord? Après des gens toute leur vie qui ont des problèmes, quoi. Ils urinent quelqu'un qui a coupé pas bien, c'est un problème, d'accord? Alors les nouveaux Moalim inexpérimentés, ils ont peur de couper trop court, alors ils laissent, ils coupent, ils tirent pas trop la membrane. Qu'est-ce qui se passe? La membrane, après, elle revient et elle monte sur le gland. Si la majorité de la membrane est revenue sur le gland, c'est pas cachère. La mienne n'est pas cachère. N'allez pas vérifier maintenant en classe, vous verrez après dans vos notes. Mais ça arrive des fois que des gens, ils se vérifient et il y a un problème. Une fois, le Rav Benson était au Mikvé. Au Mikvé, les gens sont tous nus. Il y avait un monsieur de 60 ans. Il a dit, excusez-moi, vous n'êtes pas cachère, là. Il faut refaire la Mila. D'accord ? Heureusement qu'on lui a dit, sinon il serait mort en état de carette. Donc c'est pas forcément qu'on a fait la Brit Mila à 8 jours que le moelle était bon. Il y a des moelles tordues aussi, ça arrive. Donc il faut vérifier. Surtout chez les gens qui sont un peu gras, alors la membrane a tendance à revenir et le membre il est un peu intérieur comme ça. Une fois, moi j'ai dit ça à un séminaire, on m'a dit, justement mon autre fils, il est un peu gras comme ça. Alors j'ai dit d'aller voir un moelle, il a dit que ça allait. D'accord, il y a un moelle justement aussi dans la salle, il a vérifié, il a dit que ça allait. Mais des fois le membre il rentre un peu, il est recouvert par la graisse et des fois ça peut être une Mila non cachée, c'est carré. La deuxième mitzvah positive qui est sanctionnée par le carré si on ne l'a pas faite, c'est le Korban Pessah, le sacrifice pascal. À l'époque où le temple existait, c'est même pas quand le temple existait, à l'époque où on pouvait sacrifier des sacrifices à l'endroit de l'autel, alors si quelqu'un n'allait pas sacrifier, il pouvait le faire, il transgressait un Issour Karet. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, pas parce qu'on n'a pas le temple. Le temple n'est pas nécessaire pour amener le sacrifice pascal, le Korban Pessah. Ce qui est nécessaire, c'est le lieu de l'autel. Il faut qu'on sache exactement où est l'autel, ce n'est pas très clair. Et il faut, même si on est impur, si la majorité du public est impur, alors l'impureté est repoussée pour amener le sacrifice pascal. On peut monter même sur l'esplanade du temple en tant que personne impure. Et on sacrifie à condition qu'il y ait le Kohen Gadol avec ses 8 habits et le tzitz, le bijou d'or qu'il portait ici sur le front, sur lequel était marqué Kodesh Hashem, sanctifié à Dieu. Il servait à quoi? À expier la faute d'amener des sacrifices en état d'impureté.
Ah, c'est tout le peuple qui doit être impur ou
si la majorité du peuple est impur, alors on autorise d'amener le sacrifice du pascal en impureté. Si une minorité est impure, alors que les gens purs peuvent l'amener, les gens impurs ont un Pessah Katan, Pessah Sheni, c'est le deuxième Pessah un mois plus tard, où ils ont le temps suffisant de se purifier pour amener le Pessah en pureté. Aujourd'hui qu'on est impur de toute façon, donc on n'aurait pas le choix. Si la situation politique permettait et on pouvait dégager les Arabes de là-bas et aller sacrifier le sacrifice pascal, et on savait où était le temple exactement, l'autel, sans qu'on ait le temple qui soit construit. Il suffit qu'on ait l'endroit de l'autel. Et il nous faut un Kohen Gadol avec les 8 habits, comme il faut, alors on peut amener tous ce sacrifice pascal. Dans ta chaîne, dans 8 mois, on ira tous là-bas le faire. Pardon ? Non, on peut les fabriquer. On peut tout fabriquer. Il faut un Kohen Gadol.
Même les pierres qu'on mettait sur le poêle.
Il faut les retrouver. Le vrai problème aujourd'hui, il est politique. C'est qu'on ne peut pas aller faire le sacrifice là-bas, le monde entier va crier. D'accord ? Si tu fais une chose pareille, c'est la fin des haricots. Effectivement, ça sera possible, à mon avis, qu'à l'époque messianique. Là, actuellement, c'est une enclave arabe, et c'est marqué dans les livres, tant qu'un Israël ne fera pas tchouba, alors Ishmaël aura le dessus, ici, à l'endroit du temple. Bien qu'on commence à prendre toute la terre, c'est comme une conquête d'un pays, d'accord ? Tu pars à la conquête, et les Russes et les Américains font la conquête de l'Allemagne, le point fort, c'était le Reichstag, c'était à Berlin, le centre de Hitler. Et ça, c'était le point. C'est comme ça, Turvald était à la forteresse et il se retranche. Les Arabes sont retranchés encore à l'endroit le plus important, le centre névralgique du monde, d'accord ? Le temple. Ils sont là. Et le jour où on les dégage de là-bas, c'est l'époque messianique. On ne pourra pas le faire tant que Israël ne fera pas de Tchouva. Le seul et unique moyen que ça se fasse. Donc, si quelqu'un m'attend à transgresser un interdit qui est sanctionné par le karet, comment est-ce qu'on nettoie ce péché ? Messieurs, là, il faut trois choses. Nous dit le Rambam. Tchouva, Yom Kippourim, Tolin. La Tchouva, Yom Kippour, suspendre. De nouveau, deux explications. Ou bien, Tchouva enlève un tiers et Yom Kippour enlève un tiers. La troisième chose qu'on va citer, il va enlever le dernier tiers. Ou bien, le statut de mécréant passe à un statut de tzaddik, mais tu n'as pas encore réparé ta facture. Pour suspendre, il faut deux choses. Tchouva et Yom Kippour. Veissourin abayin alav, les souffrances qui viennent sur lui, gomrim lo akapara, elle achève l'expiation. Il faut qu'il y ait souffrance.
La souffrance de ne pas manger.
Alors, quelles sont les souffrances ? Non, c'est les souffrances que nous avons dans la vie. Yom Kippour, il ne faut pas manger, c'est autre chose. On est comme des, comme des anges.
Non, on ne s'occupe pas du matériel.
Voilà,
on est là-dessus.
Voilà. Mais quand on parle ici de souffrance, c'est Dieu maintenant, il te juge. Ok, tu mérites d'être pardonné, mais il faut que tu aies des souffrances. Quelles souffrances ? Alors la Gemara, elle dit, par exemple, quelqu'un qui a mis sa chemise, on lui dit, écoute, elle est à l'envers ta chemise. Il a boutonné les boutons et il a mal boutonné ici. D'accord ? La Gemara ne dit pas ça, mais c'est du même type. La Gemara, elle parle de quelqu'un qui a mis sa chemise à l'envers. Et il doit l'enlever, la remettre à l'endroit. C'est une souffrance. La Gemara dit, il a mis sa main dans la poche pour prendre trois pièces de monnaie. David veut mettre maintenant les trois pièces de monnaie. Et il n'y a que deux qui montent. Ah zut, je dois remettre maintenant la main dans la poche, prendre la troisième pièce. C'est casse-pied. C'est aussi une souffrance. Ça, la souffrance, on va dire minime. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à chimiothérapie ?
Chalishvor.
Amputer un membre, chassé shalom, d'accord ? Être brûlé dans un... D'accord ? Ça ne manque pas, hélas, de souffrance. En fonction de la tchouva, en fonction de la gravité de la faute, en fonction de la quantité de la faute, en fonction de la valeur de la tchouva, il y a une tchouva par amour. C'est un commentaire supplémentaire. Il y a ici dans le Rambam, vous n'avez pas remarqué, mais je vous mets le doigt maintenant là-dessus, il y a une certaine contradiction. On a vu ici à l'alinéa 3, c'est marqué la tchouva me rappelait à la tchouva. Santé. La tchouva me rappelle d'alcool à Averot. La tchouva expie toutes les fautes. À l'ENA 4, il nous dit tchouva, elle n'est pas suffisante. Il faut tchouva et Yom Kippour, ou tchouva Yom Kippour et souffrance. On verra, il y a un quatrième cas. Tchouva Yom Kippour, souffrance et mort. Alors, tu dis, je ne comprends pas. Comme ça, trois lignes d'intervalle. Une fois, tu me dis que la tchouva est suffisante. Une fois, tu me dis non, il faut aussi Yom Kippour, souffrance ou même peut-être mort. Les commentateurs ont dit. Un des commentaires dit la chose suivante. Ils disent qu'il s'agit de deux tchouvas différentes. La tchouva qui nécessite aussi Yom Kippour et souffrance et peut-être même mort, c'est tchouva qui est fait par crainte. Tu as peur de l'enfer, tu as peur des tuiles que Dieu peut t'amener sur la tête, tu as peur de rater ton permis de conduire, tu as peur de Gog ou Magog, tu as peur de traverser une vilaine maladie. Alors tu fais tchouva. C'est tchouva de peur. La tchouva d'amour, qu'est-ce que c'est que tchouva d'amour ? Tchouva d'amour, c'est que ce n'est pas parce que tu as peur de quelque chose, c'est parce que tu as l'amour de Dieu. Tu es en recherche de sens, tu recherches la vérité dans le monde, tu recherches pourquoi est-ce que tu es là, tu as compris que la Torah peut t'amener cela. Pas parce que tu as peur de l'enfer ou quelque chose de ce genre-là. Tu viens par amour de la Torah, par amour de Dieu. Ce qu'aujourd'hui, on peut dire très souvent, la motivation de ceux qui font tchouva. Très peu de gens font tchouva parce qu'ils ont peur de l'enfer. Parce qu'ils voient le sens de la vie et ils ont compris que la vérité est ici. Dans ce cas-là, pas besoin de passer par Yom Kippour, souffrance ou même mort. La tchouva par amour, à elle-même seule, explique tout. Comme ça, il veut expliquer la contradiction qu'il y a dans le Rambam. Une fois, il dit la tchouva seule suffit. D'autres fois, la tchouva avec encore autre chose. C'est un des commentaires. Pas tous les commentaires sont d'accord. Alors, pourquoi je parlais de cela ? Donc, cette souffrance-là, il est évident que si quelqu'un a une tchouva de meilleure qualité qui est par amour, ça va atténuer les souffrances. Si quelqu'un a une tchouva qui est plus par crainte des souffrances, justement, ça va au contraire, ça risque d'augmenter les souffrances. Parce que tu as une facture, si tu as fait des péchés graves, il faut nettoyer cette facture. Il existe, ce n'est pas marqué dans le Rambam, mais comme les commentateurs disent, il existe un palliatif à la souffrance. Une chose qui est à la place des souffrances, c'est l'étude de Torah. C'est marqué dans d'autres Rishonim, d'autres décisionnaires très grands. L'étude de Torah, elle est à la place des souffrances. Et il y a aussi une troisième chose qui n'est pas à la place des souffrances, mais qui peut arrêter comme un bouclier par rapport aux souffrances. C'est-à-dire qu'au lieu que ça devienne d'un coup une chimiothérapie, on te fait en paiement mensuel, comment on appelle cela, régulier. D'accord ? On a tous les mois un petit truc comme ça, une petite tuée, au lieu d'arriver à un gros tout d'un coup, on te fait ça plus échelonné sur quelques années. Ça, c'est la tzedaka. Quand quelqu'un donne la tzedaka, ce n'est pas à la place des souffrances, mais c'est un bouclier. Ça empêche les souffrances de venir. La dette, elle reste. Il faudra bien la payer un jour. Alors, on te la fera payer plus lentement, par exemple. Tant que tu donnes la tzedaka, elle a une valeur de bouclier. Mais elle n'est pas à la place. La seule chose qui peut être à la place de la souffrance, c'est la connaissance de Dieu. Quand quelqu'un étudie la Torah, c'est une mitzvah qui est tellement grande qu'elle a la puissance d'aller réparer, d'amener les parties d'âme, de notre âme, qui sont parties dans les endroits les plus gros tréfonds, qu'on pouvait ramener que par des souffrances, la Torah a le moyen d'aller ramener ces parties d'âme, des grands péchés qu'on a faits, et réparer tout cela de façon très agréable. Parce qu'il n'y a pas de chose qui est plus agréable que l'étude de la Torah. Bien sûr, on parle d'étude de Torah en souffrance. C'est quoi souffrance ? En effort. Pas pépère, la cigarette et le café. D'accord ? Tu poses une question dans la Gemara, tu vas faire un tour, tu reviens, tu discutes un peu, tu refais un peu la Gemara. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est du cinéma. D'accord ?
C'est
bien, mais je te parle maintenant de quelqu'un qui a fait des gros péchés. On parle maintenant des sourcarettes, d'accord ? Quelqu'un qui a fait beaucoup. Il faut réparer. Et même qu'il a fait ses péchés, alors comment il les a fait ? Il les a fait avec tout son cœur, tout son envie, pas pépère. Il a fait. Il faut choisir ta mishka, la tchouba, mesure pour mesure.
On va se parler dans l'autre sens. Quoi.
Pardon, exactement. Voilà, exactement.
Ah, déjà, il y a une grosse nuance entre celui qui a fait, on va dire, beaucoup de Navirat. Cette personne-là ne connaissait pas la Torah.
Oui.
Ça fait beaucoup de
Torah. C'est certain que c'est beaucoup, beaucoup moins grave.
Maintenant, la plupart des personnes connaissent la Torah, non seulement elle ne fait plus Navirat, mais en plus elle étudie.
Alors,
elle fait beaucoup plus d'efforts que l'effort qu'elle a fait dans
ça répare énormément, c'est une faculté de changer le négatif en positif. Une chose que je n'ai pas mentionnée, je vous le rappelle aussi, c'est bien. Si quelqu'un maintenant a transgressé une loi de Karech, par exemple, Shogeg, de façon involontaire, il ne savait pas que c'était interdit le Karech, il ne savait même pas que c'était interdit, alors le statut descend comme s'il a transgressé une loi négative.
Même si moi, je ne lui ai pas fait ça.
Voilà, c'est-à-dire que le Shogeg descend d'un cran. On a vu ici qu'il y aura 4 degrés. Les lois positives, les lois négatives. Les lois négatives sanctionnées par le Karet. On verra après le quatrième, c'est Chéou Lachem. Chéou Lachem qui est expiable que par la mort. D'accord ? Si maintenant quelqu'un a transgressé un de ces 4 interdits de façon. Ça, c'est volontaire. Et la transgression de façon involontaire, tout baisse d'un cran. Chéou Lachem est expié par souffrance. Karet est expié par loi négative. Par Yom Kippour, et loi négative suffit de la tchouva. La tchouva tout seul répare. Donc tout est baissé d'un cran quand on a transgressé de façon involontaire. On s'arrête ici. Baruch Adonai, Ramam Amen, Va Amen.